Découvre personnellement comment la parole de Dieu peut effectuer un changement dans ta vie à travers le ministère de l'évêque Dagi Wall-Mills. Dagi Wall-Mills est le fondateur de Lighthouse Chapel International, une dénomination de plus de 2000 branches à travers le monde. Il est un évangéliste qui guérit et un auteur de plusieurs livres à grand succès. Il est aussi le pasteur de l'église Premier Amour, un ministère de campus avec plus de 200 branches. L'église de Premier Amour est une église vibrante avec des gens jeunes et énergétiques, remplis du premier amour pour le Seigneur. Maintenant, écoutons Dagi Wall-Mills.
Alléluia! Levez vos mains. Père, nous te rendons grâce pour le fait que nous nous attendons au miracle aujourd'hui dans ta présence. Dirige-nous par ta puissance. J'aimerais que tout le monde prie pour l'esprit de lumière. Pour un moment, priez pour l'esprit de lumière, que l'Éternel te donne la lumière. Père, merci pour la lumière que tu viens de répandre sur nous. Merci de nous avoir dirigés. Merci de nous avoir conduits. Nous sommes reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde a dit Amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Quelle bénédiction! Bien, il est bon de retourner chez lui où je sois. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Asseyez-vous. D'accord. Alléluia. Quelle bénédiction d'être dans la maison de l'Éternel. Je sais que aujourd'hui vous serez bénis. Parce que nous sommes bénis quand nous venons à la maison de l'Éternel. Amen. Il y a certaines choses très importantes et je crois que Dieu est en train de partager ces choses avec nous. Et je crois que moi aussi je vais partager certaines choses avec vous. En Luc 22, versets 25 et 26. Ceci n'est pas le message, mais c'est un message. Et il leur dit, les rois des nations les domine. Et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la seigneurie sur des gens? Ça veut dire d'exercer l'autorité, exercer puissance, exercer la dignité sur les gens. Donc, dans le monde, la Bible dit, dans le monde, les gens pratiquent l'usage de dignité et l'autorité, la puissance sur des gens. C'est ça qui fait les gens grands dans le monde. Mais le verset avant ce verset dit, il y avait aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Donc, Jésus est en train de montrer à nous qui sera grand. La Bible dit, dans le monde, il exerce l'autorité sur les autres. Ça veut dire manifester l'autorité, la dignité, la seigneurie, ou bien jouer le gros bonnet. Et la Bible dit, ceux qui font ça sont appelés dans le monde les bienfaiteurs. Mais verset 26 dit, mais il n'en sera pas ainsi de vous, mais que celui qui est plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. Donc, cette écriture nous montre que dans le royaume de Dieu, il est une bonne chose d'être une jeune personne, d'être comme une jeune personne, de rester comme un jeune. Et maintenant, nous allons nous rendre compte que être jeune n'est pas une mauvaise chose. Et la manière dont les jeunes se comportent n'est pas une mauvaise chose. Mais plutôt, dans la maison de Dieu, c'est une grande chose. Parce que les jeunes sont plus humbles. Vous voyez? Une femme qui est jeune, qui se comporte comme une jeune, vous voyez, dans le mariage, elle est prête pour se marier, bien que une femme plus âgée peut être plus belle qu'une jeune femme. Oui, mais elle sera, la plus jeune sera choisie pour le mariage que la femme plus âgée qui est plus belle. Il faut bien regarder, il y a des femmes plus âgées qui sont plus belles que les jeunes. Il faut bien regarder les yeux. Mais être jeune est plus grand dans la maison de l'Éternel. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui méprisent, la Bible dit, Jésus a dit qu'ils soient comme le plus jeune, qu'il se comporte comme une jeune personne. Ça veut dire qu'il doit se comporter et être jeune. Même pour avoir un bébé, tu dois être jeune. Tu dois avoir des pensées de jeune. Tu dois agir comme un jeune. Il y a beaucoup de... Combien de frères ici ne sont pas encore mariés? Oui, vrai. Beaucoup. Mais vous allez vous rendre compte que ces jeunes frères ne vont pas aller chercher les femmes plus âgées. Oui. Et ce n'est pas parce que les plus âgées ne sont pas belles, non. Oui. Il y a beaucoup de des femmes plus âgées qui sont plus belles. Plus belles. Elles ont plus d'argent, même pour, elles ont beaucoup d'argent pour acheter des cheveux, des maquillages. Elles ont beaucoup d'argent pour acheter du lait à boire pour être grosses et bien. Mais il faut lire la Bible. La Bible dit qu'il soit comme le plus jeune. Donc, il y a une manière dont un jeune, une jeune personne se comporte. Oui. se comporte. Il y a une manière. Et voilà ce que Jésus est en train de dire. Une plus jeune personne croit. Quand les gens ont plus d'expérience, beaucoup d'expérience dans cette vie, ils ne croient plus. Quand tu as été là pour longtemps, tu as vu des changements en gouvernement après gouvernement, tu ne crois plus qu'un gouvernement peut faire un changement dans le pays. Le plus que beaucoup de garçons sont venus te dire qu'ils t'aiment, le moins que tu crois maintenant quand quelqu'un d'autre vient te dire que je t'aime. Mais quand tu es plus jeune, quand on te dit je t'aime, tu dis waouh. Alors, Dieu est en train de nous dire d'être comme des jeunes. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être jeune. Les plus jeunes sont différents que les plus âgés. Mais ce que nous avons vu aussi, tu peux avoir un jeune homme en train de diriger louange dans l'église comme un vieux. Vous voyez, et tout, il s'agit de leur manière de se comporter. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu te comportes? Quand j'avais voyagé, je suis allé rendre visite aux églises, j'ai constaté une chose. Que quand les gens sont plus jeunes, c'est une chose agréable devant Dieu. Je peux prêcher aux gens qui sont plus âgés dans leur esprit et je vais dire une très grande chose que Jésus a dit. Et ils vont me regarder dans une neutralité absolue. Mais, je peux dire les mêmes choses aux jeunes personnes et ils vont crier, ils vont hurler, ils vont se tenir debout. Alléluia! Alors, être jeune n'est pas une mauvaise chose. Et être jeune aussi n'est pas quelque chose qui représente le mal. Parce que la fécondité en Dieu est pour les jeunes. Je mérite vous encourager quand j'ai vu l'église de First Love au Royaume-Uni qui je vous dis que leurs églises sont plus, la plupart des pasteurs de l'église de First Love sont des enfants des pasteurs et leurs églises sont plus grands même que l'église de leur père. Vous voyez, les enfants sont ici, les parents sont là et les églises des enfants qui sont devenues plus grandes, des fois même trois fois plus que l'église de leur père. D'une manière pratique. C'est très étonnant. Donc, Jésus a dit qu'il soit comme le plus jeune. Qu'il soit comme le plus jeune. Qu'il pense comme un jeune. Qu'il suit le flot comme un jeune. Parce que quand on grandit, nos attitudes aussi grandissent. Et les attitudes peuvent... Les attitudes changent. Quand tu es un jeune homme qui a une attitude âgée, que Dieu nous épargne cela. Alléluia. Et je vous dis la vérité, nous serons bénis quand nous sommes plus jeunes. Quand j'étais venu à l'église de First Love. Voici mon mon fils, c'est lui qui m'avait introduit avant de prêcher. Je peux, vous tous ici, vous êtes mes enfants. Tous les plus âgés ici sont la bienvenue comme des membres spéciaux. Oui. Parce qu'ils ont un cœur jeune, comme moi-même. Parce que les jeunes ici, la plupart d'entre vous êtes jeunes comme je suis. Je le suis. Quand Dieu m'avait amené ici, je me suis rendu compte que Dieu m'avait donné encore une opportunité. C'est comme une femme qui gagne encore une opportunité de se marier à une autre personne. C'est comme une vieille femme, comme une veuve. Quelqu'un veut se marier et la personne vient te choisir. Tu dis quoi? C'est un miracle. Nous sommes l'épouse de Dieu. Et après 25 ans, étant l'épouse de Christ, tu vois que tu comme si tu es fatigué. Tu es fatigué étant épouse de Christ. Mais Dieu cherche les gens qui ne sont pas fatigués d'être des épouses de Christ. Oui. Certaines épouses sont déjà fatiguées la première nuit. Mais que Dieu nous épargne. Écoutez, toutes mes histoires sont vraies. J'ai vu beaucoup, ils sont fatigués. Premier jour de Noël, ils sont fatigués déjà, elles sont fatiguées. Et vous voyez, au fur et à mesure, après des années, et elle devient fatiguée. Donc, peuple de Dieu, il est bon d'être jeune. Tout le monde ici est jeune. C'est une bénédiction. Les gens pensent que les jeunes, tout ce que les jeunes aiment, c'est de boire de l'alcool et fumer. C'est pas comme ça. Il y a encore des jeunes qui servent l'Éternel. Maintenant, demande à ton voisin, mon ami, est-ce que tu es le type qui aime fêter, tu aimes aller à la boîte de nuit ici? Nous les jeunes, nous servons l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Les sept grands principes de fécondité. Les sept grands principes de fécondité. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Les sept grands principes de fécondité. Amen. Principe numéro un. Après que tu sois né de nouveau, tu dois porter de fruits en étant planté en Christ. Planté et enraciné en Christ. Après que tu sois né de nouveau, tu dois porter de fruits en étant planté en Christ. Amen. Tout le monde, répétez après moi. Après que tu sois né de nouveau, tu dois porter de fruits en étant planté en Christ. Jean 15, verset 15, la Bible dit, Jean 15, 5, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. D'accord? Donc, après que tu sois né de nouveau, tu dois demeurer ou être planté. voyez, être planté est différent du voyager de place en place. Beaucoup de personnes n'expérimentent pas bien le christianisme comme une vie où on porte du fruit. Parce que la raison, c'est que après que tu sois né de nouveau, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre. C'est pourquoi quand les gens enfantent, on les voit comme les gens responsables, parce que maintenant tu es responsable d'un enfant qui doit grandir. Maintenant vous êtes, oh, tu es un Christ. Tu dois maintenant monter et puis faire ce que tu dois faire. Tu es né de nouveau maintenant. Tu as un changement dans ta vie. Tu grandis spirituellement. Maintenant, tu dois porter de fruits. Porter de fruits, ça veut dire de faire sortir quelqu'un selon ton espèce. Dieu s'attend à ce que on fasse quelque chose. Et quand tu es planté en Dieu, il est fort probable de porter de fruits. Psaume chapitre 1, verset 1. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, qui n'assied pas au siège des moqueurs, qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit, et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont la feuille ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Amen. Donc quand on est planté permanemment, la chose suivante, c'est de porter du fruit. Oui. Les églises aujourd'hui sont pleines et pleines et pleines de chrétiens qui ne portent pas du fruit. Mais Dieu s'attend quelque chose de toi. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit. Aujourd'hui, les églises sont remplies par des gens avec des portes ouvertes, prêts à recevoir. Est-ce que vous avez vu des bébés hirondelles? Tout le temps, ils ont des becs ouverts, attendant ce que leur maman vienne déposer quelque chose dans leur bouche. Beaucoup de chrétiens se comportent comme ça. Mais j'aimerais que vous compreniez que après que tu sois né de nouveau, au lieu de rester là-bas, espérer de recevoir encore et encore. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi de l'argent. Dieu va me rendre riche. Dieu va me donner ça. Dieu va me donner ça. Il faut bien régler votre esprit. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu comme donne-moi quelque chose. Donne-moi quelque chose. L'église est devenue comme un endroit où tu viens pour prendre des choses. Vous venez en prophétie sur votre vie pour recevoir seulement. Donc, vous voyez Dieu comme un gris-gris. Quand je dis gris-gris, vous comprenez? Dieu est devenu comme un charlatan. Il possède une puissance dont tu as besoin. Si tu as cette puissance, tu peux avoir tout ce que tu vois, tout ce que tu veux dans la vie. Il dit, je suis le vrai cep, je suis le cep, et vous, les serments. Donc, Jésus est le cep. Maintenant, les serments primaires sont les apôtres qui étaient avec Jésus. Après eux, il y avait d'autres apôtres, d'autres pasteurs, d'autres enseignants. Ce sont des autres branches secondaires. Et puis, il y a encore d'autres plus petites branches qui sont nous. Avant, et puis maintenant, on vient aux feuilles qui sont prêtes à tomber. Mais que Dieu nous épargne ça. Donc, il y a le cep qui est l'arbre principal. Et puis, il y a des sarments primaires, sarments secondaires et des sarments. Donc, tu es un sarment et Dieu s'attend à ce que des fruits sortent de ta vie. Tu dois te demander, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Il faut serrer la main de ton ami, dis-lui, sois la bienvenue ici, on est là pour porter de fruits. Nous sommes contents que tu es ici. Mais tu dois porter de fruits. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce que on s'oriente dans nos esprits de penser comme cela, on n'est pas des chrétiens normaux. Nous avons des églises pleines en capacité qui sont les gens qui viennent chercher des femmes, chercher des maris, chercher d'autres choses. On peut suivre ça pour 1000 ans. Mais cela ne peut pas remplacer la parole de Dieu. Dieu a ses attentes de nous. Vous pouvez prêcher ou faire tout ce que n'est pas, mais vous allez voir que ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Qui ici peut dire que il était vraiment méchant? Levez vos mains. Qui ici était sévèrement méchant? Qui était modérément méchant? Qui était doucement méchant et qui était juste et gentil avant d'être sauvé? Ok, donc nous voyons que c'est la plupart des danseurs étaient vraiment méchants. Maintenant, je veux que vous sachiez que Dieu s'attend de vous de faire quelque chose. Il y avait un autre très méchant appelé Paul en Actes chapitre 9. Il était sauvé. Mais aussitôt, Actes chapitre 9, 11. On commence du verset 9. La Bible dit, et il fut 3 jours sans voir et il ne mangea ni but. Or, il y a à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur dit en vision Ananias et il dit, mais voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car voici, il prie et il a vu en vision un homme nommé Ananias, entrant et lui imposant la main pour qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit, Seigneur, j'ai eu parlé à plusieurs de cet homme. Combien de mots il a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a pourvoi de la part des principaux sacrificateurs de lier tout ce qui invoque le ton nom. Donc Ananias répondit, Seigneur, j'ai eu parlé plusieurs de cet homme, combien de mots il a fait au sein, et ici il a le pouvoir des principaux sacrificateurs de lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations. et les rois. D'accord. Et la Bible dit, car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Il a dit, je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Vous voyez. Donc, nous recevons moitié de la vérité quand nous entendons parler des bénédictions, des voitures, les soi-disant prospérités. Ça, c'est moitié de la vérité. Parce que nous nous laissons tomber facilement quand nous n'arrivons pas à voir la vérité 100%. Tu peux dire quelque chose, mais tu vas voir que ce que tu viens de dire n'est pas la vérité en 100%. Le diable est venu à Ève, il a dit, est-ce que Dieu a dit de ne pas manger le fruit? Elle a dit oui. Le diable dit, oh, Dieu sait que quand vous mangez, vous serez sage. C'était vrai, mais c'était la moitié de la vérité. L'autre moitié de la vérité, c'est que les cimetières que vous voyez, les larmes qui ont coulé des yeux des gens à cause de la mort de quelqu'un, les maladies, les accidents, les choses terribles qui se passent. Ça, c'était l'autre moitié de la vérité que Satan n'a pas dit à Ève. Donc, les vérités, les demi-vérités sont très dangereuses et terribles. Toutes les tentations de Jésus-Christ étaient vraies. Satan même avait cité des écritures, mais c'était seulement moitié de la vérité. Donc, Jésus aussi a fait sortir les écritures pour compléter la vérité. Et il a dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Et puis, donc, maintenant, il a dit, tu ne peux pas tenter l'éternel. Il a dit, si tu es le fils de Dieu, il faut tourner le pierre en paix. Et puis, il a dit, non, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain. Ça, c'est la moitié aussi, l'autre moitié de la vérité. Donc, quand on suit la vérité, on doit suivre la vérité en 100%. Quand on suit la vérité, les demi-vérités, l'Église maintenant tombe dans une erreur. Quand on lit la Bible dit, je souhaite au-delà de toutes autres choses que tu prospères, tu sois en bonne santé. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est la moitié de la vérité. Je n'ai jamais entendu un prédicateur de prospérité mentir. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais il y a encore d'autres choses. Ici, Dieu, Jésus dit que je lui montrerai combien de choses il doit souffrir pour moi. Ça, c'est une autre partie de la vérité. Donc, il y a deux parties. Si tu n'as pas 100%, si tu n'as pas la vérité en 100%, tu vas faire d'autres choses. Tu vas tomber. Et je l'appelle un mensonge parce que c'est une chose qui nous dirige et ça ne nous dirige pas en bon sentier. Et Ananias s'en alla et entra dans la maison, lui imposant les mains. Il dit, Saul, frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin et par où tu venais, m'envoyer que tu recouvres ta vue et tu sois rempli de le Saint-Esprit. Et aussitôt, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il recouvra la vue, et levant, il fut baptisé, et ayant mangé, il reprit des forces, et il fut quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Verset 20, et aussitôt, tout le monde dit aussitôt, il prêcha Jésus dans les synagogues, disant que lui est le Fils de Dieu. Waouh! Donc vous voyez, quand il était en train de recouvrir, il faisait des études bibliques et aussitôt il a commencé à prêcher. Demande à ton voisin combien d'années est-ce que ça va te prendre de commencer à prêcher. Numéro 2, après que tu sois né de nouveau, tu dois montrer que tu es digne de ton salut en étant fécond. Principe numéro 2, après que tu sois né de nouveau, tu dois montrer que tu es digne de ton salut en étant fécond. D'accord? Tu dois montrer que tu es digne de l'effort que Dieu a fait pour te sauver en étant fécond. Hallelujah. Colossiens chapitre 1 verset 10. Le premier principe nous dit d'être implanté. Qui sait que une plante ne peut pas porter de fruits quand on la transplante d'ici là. Donc, arrêtez d'être quelqu'un qui ne reste pas à une seule place. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à porter de fruits parce qu'elles ne sont pas stables en Christ. Alléluia. Maintenant, le deuxième principe dit, nous devons, Colossiens, chapitre 1 verset 9, il dit, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons ouï parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous et apportant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Est-ce que tu es digne? La raison pour laquelle tu es digne, ce n'est pas parce que tu es bon, parce que toi-même tu sais que tu n'es pas bon. Parce que après être né de nouveau, l'évidence est là. Oublions même ton passé. Même après ton salut, toi-même tu sais que certains comportements, certains péchés, certaines choses sont toujours là. Ce n'est pas vrai? C'est comme quand Pierre a guéri l'homme et qui était devant le temple. Pierre a dit, pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si c'est par notre propre justice ou notre propre sainteté, cet homme a été guéri. Pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si nos propres saintetés? Hein? Pourquoi est-ce que les gens vous regardent comme si tu es puissant et saint? Mais toi-même, tu sais que c'est pas vrai. C'est pas parce que tu es puissant ni saint. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est loin de toi. C'est loin de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut prouver que c'était digne d'être sauvé quelqu'un comme toi? Il y a une vision de William Booth. Dans cette vision, il y avait des gens dans l'île et ces gens étaient en train de se noyer et on faisait des efforts pour les sauver. Mais quand les autres étaient sauvés et ils sont venus sur l'île, ils ont vite oublié leurs amis qui étaient aussi dans l'eau en train de lutter pour leur vie. Donc la question que tu dois te demander, c'est que si Dieu t'a sauvé, si tu regardes ceux qui luttaient dans l'eau, Dieu a décidé de venir te sauver de l'eau. Il t'a sélectionné. Il t'a jeté un câble. Et puis, on t'a tiré de l'eau. Tu es venu maintenant sur la terre. Tu dois te demander, pourquoi est-ce que j'ai été choisi? Est-ce que c'était parce que c'est parce que il y avait l'espérance que quand on choisit quelqu'un comme toi pour te sauver, toi aussi tu vas aider à aussi et sauver les autres qui sont dans l'eau. Et maintenant tu oublies les autres qui sont dans l'eau. L'eau. C'est comme si toi tu es meilleur que ceux qui étaient dans l'eau. Non. Tu étais sélectionné pour sortir de l'eau, pour aider les autres qui sont dans l'eau d'être sauvés. C'est ça qui montre que c'était digne d'être sauvé. Donc quand tu sauves les autres, tu es en train de marcher dans une manière digne pour sauver les autres. Voici ce que c'est une chose qui prouve, qui donne l'épreuve que c'était digne d'être sauvé. Regarde à moi. C'est rare même de voir les gens de ma famille dans l'église. Récemment, j'étais en train de traverser une frontière et puis ils m'ont demandé quel est ton nom. J'ai dit je m'appelle. Ils m'ont dit oh, mon nom est très très commun. Il y a beaucoup de gens avec ce nom-là. Mais dans mon église, tu ne vois pas beaucoup de... Mais comment on appelle? C'est seulement la famille de ma soeur, mon épouse, que vous voyez dans l'église beaucoup. Dieu m'a jeté le secours, pas parce que j'étais saint. Non, ça peut pas être comme ça. Dieu s'attend à ce que moi aussi je devienne fécond pour sauver les autres. Donc, si tu es sauvé aujourd'hui et tu peux venir à l'église seul, sans penser aux autres qui ne sont pas sauvés, je te dis, quelque chose ne va pas avec toi sévèrement. Pas modérément ou bien doucement, mais quelque chose ne va pas sévèrement avec toi. Écoutez, cette affaire de bénis-moi, c'est une vérité, une moitié vérité. Des fois, tu dois te demander, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé? Les gens qui ont été victimes des accidents terribles, qui ne sont pas morts, mais vivants. Par exemple, il y avait un avion, Boeing 747, qui avait écrasé. Il y avait des gens qui étaient vivants. Quand on l'avait interviewé, on l'avait demandé s'il voulait travailler encore. Ils ont dit non, il ne voulait plus travailler même dans l'avion. Il y avait un accident comme cela. Il y avait des gens, cet avion qui a fait escale dans un autre pays, il y a des gens qui étaient dans l'avion, qui sont allés en ville. Quand ils étaient de retour, on leur avait dit que l'avion était déjà sur la piste en train de partir. Donc, ils avaient raté leur vol. Et ils étaient là à l'aéroport en train de regarder l'avion quand l'accident s'est produit. Parce qu'il y avait un avion qui était sur le point de décoller et puis il y avait un autre avion qui était sur le point d'atterrir en même temps parce que les deux avions ne pouvaient pas se voir. Vous voyez qu'il y a certains aéroports, la piste est seule, une seule piste pour l'atterrissage et décollage. Et ils étaient là, regardant, ils ont vu les gens dans KLM. Donc KLM était en train de décoller, il y avait Panam aussi en train d'atterrir. Ils ont eu l'accident. Et c'était ça. Il y avait des gens à l'aéroport qui devraient être dans l'avion, mais comme ils avaient raté l'avion, ils étaient là en train de regarder quand ils ont vu l'accident se produire. J'ai regardé une interview, ils ont interviewé ces différentes personnes. Ils ont... Il y a un qui dit, non, je ne peux plus voyager avec avion, je ne veux plus travailler dans l'avion, je ne peux pas. La question, pourquoi est-ce que tu as été sauvé? Tu dois être choqué. Ça doit te dire, ça doit t'étonner. N'avez-vous pas des cousins, des frères, des sœurs? Est-ce que cela ne vous touche? Pourquoi est-ce que Dieu vous a mené ici? Pourquoi Dieu vous a sauvé? La raison pour laquelle Dieu vous a sauvé, c'est parce que il veut que vous aussi, vous allez sauver les autres. La Bible dit, afin que vous marchiez dans une manière digne. 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 1, verset 12, il dit, et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié, ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant était un blasphémateur, un persécuteur et un outrageux, mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Il dit, je rends grâce à Dieu car il m'a estimé fidèle. La plupart de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont dans certaines positions, oublient la raison pour laquelle Dieu les a mis là-bas. Si tu as été dans l'église longtemps, si tu es pasteur, tu as grandi un peu, tu vas apprendre de ne pas espérer grand-chose des gens qui sont hautes dans certaines positions ou bien qui sont riches. Mais plutôt, quand tu les vois faire certaines choses, tu es étonné, même tu dis, ah, hey, vraiment, c'est lui qui fait ça? Oh, c'est bien. En tant que pasteur, après toutes ces années d'expérience, quand tu vois certaines choses, tu n'es pas étonné. Oui. Par exemple, quand les gens rompent leur relation, on n'est pas étonné parce qu'on sait déjà comment cette relation peut devenir s'il ne rompt pas. Donc quand les autres sont tristes, nous on est content. Il y a certaines choses, vous allez dire que cette personne regarde comment Dieu l'a béni. Je sais qu'il va bénir l'église, il va aider l'église. Oublie. Quand la personne se souvient et dit que je vais faire ça, je vais aider l'œuvre de Dieu, Dieu merci. Mais la plupart des riches, ils ne pensent pas à l'église. Ils pensent à leur voiture, leur maison, leur vie. Vous voyez, quand vous mangez de l'arachide, des fois, il y a des petites, comment on appelle, il y a des petites graines qui restent en bas. Ces graines sont vraiment amères. C'est comme si des graines gâtées, pourries. Ah, voici ce que les gens aiment donner à Dieu. Ce qui reste au en bas, qui est pourri, c'est ça qu'il veut donner à Dieu. Mais le vrai or, il dépense ça sur eux-mêmes. Regarde à Reinhard Bonnke, qui a 79 maintenant. Il est allemand. Combien d'Allemands sont sauvés? Combien d'Allemands croient en Dieu? Disons la vérité. Mais nous voici. Il essaye. Oui. Maintenant, Dieu l'a estimé fidèle, il a mis dans le ministère. Il a dit, je ne vais jamais mourir devant une télévision. Il sort pour prêcher avec sa chaise. Il ne peut pas se tenir pour longtemps. Quand il prêche un peu, il s'assoit, il y a des gens qui le tiennent. Pour s'asseoir devant une télévision pour mourir, il dit jamais. Dieu l'a compté, Dieu l'a estimé fidèle. Dieu lui a donné 79 ans. Est-ce qu'il va rester là-bas en faisant rien? Non. Ton salut doit te choquer. Ton salut doit t'émerveiller pour faire quelque chose pour Dieu. La plupart d'entre nous, quand nous venons pour témoigner, on parle seulement du 10% de ce qui est réellement dans notre vie. Ce n'est pas vrai? Oui. Nous avons des histoires très très bizarres, mais nous gardons ça dans nos poches. Quel est le principe numéro 1? Je n'entends rien. Amen. Principe numéro 2. Après que tu sois né de nouveau, tu dois montrer. Ok, numéro 3. Principe numéro 3. Après que tu sois né de nouveau, tu dois porter du fruit parce que le Saint-Esprit a été répandu sur toi. Parce que le Saint-Esprit a répandu sur toi. Amen. Ésaïe 32, verset 13. Sur la terre de mon peuple croissent des épines, des ronces, même sur toutes les maisons de délices de la cité joyeuse. Car le parler est délaissé, le tumulte de la ville est abandonné. Ophel et le tour de sentinelle seront des cavernes pour toujours. Les délices des ânes sauvages, un pâturage des troupeaux. Vous voulez que vos maisons soient délaissées? Quand est-ce qu'il y aura un changement? Verset 15. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert devienne un champ fertile et que le champ fertile soit réputé une forêt. Alléluia. Amen. À chaque fois que le Saint-Esprit descend sur nos vies, la fécondité est la chose qui suit. Qui ici a reçu le Saint-Esprit et parle en langue? Levez vos mains, je veux voir. Qui ici ne parle pas en langue d'abord? Levez les mains aussi, parce que on prie aussi pour ceux qui n'ont pas reçu le don du Saint-Esprit. Donc, juste après le culte, ceux qui ici qui n'ont pas encore reçu le don de parler en langue et qui, ceux qui n'ont pas été baptisés en Saint-Esprit, après le culte, on va prier pour vous. Le Saint-Esprit vous rend fécond. Vous voyez, le Saint-Esprit en toi n'est pas la transpiration. Le Saint-Esprit en toi n'est pas huile. Le Saint-Esprit en toi n'est pas le sentiment quand on jeûne. Non. Qui a eu un certain sentiment après le jeûne? Tu te sentais spirituel. Tu disais que waouh. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas ça. L'esprit ne peut pas être senti. À moins qu'ils soient en train de mordre la chair. La plupart des sentiments sexuels sont des œuvres de l'esprit en train de stimuler vos chairs, ou votre chair. Vous voyez, la Bible dit que le serpent, il allait manger la poussière, et comme votre chair aussi est poussière, quand les esprits sont en train de manger votre poussière, la chair, vous êtes stimulé, vous avez des sentirs sexuels, des choses là. C'est vrai. les démons remplissent aussi des chansons. Des chansons qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, nous avons pris toutes ces chansons, nous avons vidé ces chansons des esprits mauvais et nous l'avons rempli avec maintenant le Saint-Esprit. Il y a certaines chansons, quand tu écoutes maintenant, tu vas forniquer. Il y a certaines chansons, tu écoutes, tu vas fumer les herbes. Parce qu'il y a des esprits qui se nourrissent à travers la musique. Si tu veux comprendre un esprit mauvais, vous voyez, un esprit mauvais est un animal intelligent. Quand tu lis la Bible, tu vas voir que la plupart d'esprits mauvais dans la Bible se sont représentés par des animaux comme des crapauds, des grenouilles, des serpents, des lions. Ils connaissent la manière dont les êtres humains agissent. Vous voyez comment les démons ont dit, Jésus nous connaissons et Paul aussi nous connaissons, mais vous qui êtes-vous? Vous comprenez? Donc le serpent peut stimuler. Mais à part ça, quand il y a un esprit présent, on ne peut même pas voir ou sentir. Tu peux avoir un esprit, tu ne sauras même pas que tu as un esprit. Regardez à Luc chapitre 9, verset 9, Luc 9, 54, 55. La Bible dit, et ses disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent. Jésus partait quelque part pour prêcher, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Maintenant, la Bible dit, et ses disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descend du ciel, il est conçu comme aussi fit Élie, et se tournant, il le conjura fortement, lui dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Vous voyez? Donc, autrement dit, vous pouvez avoir un esprit qui t'anime, mais tu ne sauras même pas quel esprit t'anime. Quand tu ressens le Saint-Esprit, ce n'est pas facile à ressentir. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne sauras pas qu'il y a un esprit qui te rend fégant. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu viens de recevoir quelque chose qui va te rendre fégant pour porter de fruits. Quand tu as le Saint-Esprit, oui. Mais tu ne sauras pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous et vous serez mes témoins. Donc, vous ne savez pas que vous pouvez témoigner jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Oui, c'est pourquoi nous devons vous dire que Dieu s'attend de vous certaines choses afin que vous ouvrez vos bouches, parlez afin que les autres soient conduits à Dieu. Parce que vous ne saurez même pas que cet esprit est en vous. C'est la même chose comme un mauvais esprit. Quand quelqu'un te dit que tu as l'esprit d'orgueil en toi, faut pas argumenter. Faut pas argumenter parce que vous-même, alors que vous êtes assis, vous ne voyez pas vos visages. Faut regarder vos visages. Est-ce que vous voyez vos visages? Non, vous n'arrivez pas à regarder, à voir votre visage. Donc, le Saint-Esprit est là, dans sa présence. Tu reçois la puissance pour prêcher l'évangile. Vous serez étonné. Vous serez étonné quand vous ouvrez vos bouches, comment vous allez vaincre les gens. Oui. Vous serez étonné comment Dieu peut utiliser, comment Dieu peut utiliser votre bouche pour toucher les cœurs des gens, pour convaincre les gens pour se donner à lui. Kalabashanta. chaque belle fille qui a charmé les hommes, le jour où tu arrives à changer votre charme dans une autre direction, vous allez charmer les gens pour Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit est sur vous. Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert devienne un champ fertile. Donc au lieu d'être un désert sans rien, arrivé, quand j'étais au Royaume-Uni, il y avait une petite fille. Je lui avais demandé, elle dit, elle a 20, plus de 20 personnes dans son église. Petite fille comme ça. Petite fille. C'est trop fantastique. Vous serez étonné de ce que vous pouvez faire pour Dieu. si tu es fille, tu es pasteur de 120 personnes. Ah, ça veut dire qu'il y a 120 personnes qui ont peur de venir te demander ta main en mariage. Dis à ton voisin, il semble que tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Dis-lui, il semble que tu n'es pas au courant. Tu es un gagnant, un gagnant d'âme. Il semble que tu n'es pas au courant. Il semble que tu n'es pas au courant. Est-ce que vous connaissez T.L. Osborne, un homme de Dieu très renommé? J'étais avec lui en Seattle. Bientôt, vous allez voyager à Seattle. Dis à ton voisin, Seattle ne sera pas trop loin de toi. Ça ne sera pas trop difficile pour toi. Maintenant, la prophétie dans laquelle tu crois, j'ai dit, je prophétise Seattle au nom de Jésus. Sois comme une jeune personne et recevez. Donc, je parlais à T.L. Osborne. Vous comprenez? Parce que à Seattle, il prêchait. Et après lui, moi aussi, je prêchais. Donc, on était assis. Et je lui avais demandé une question. Quand on ne demande pas des questions, ça montre une certaine... c'est comme si tu es un peu taré, quoi. Tu ne demandes pas des questions, tu es taré. Mais que Dieu nous épargne cela. Donc je lui avais demandé. Où est-ce que nous pouvons aller pour faire les évangélisations? Et je lui ai demandé comment est-ce que tu peux savoir comment aller pour faire l'évangélisation. Et il m'a réprimandé. Il m'a dit, ne sois pas mystérieuse. Ne sois pas. Il a dit, il faut juste aller. Il a dit, ne sois pas bizarre, ne sois pas trop mystérieuse. Il faut aller seulement. Il faut saisir spooky là. En anglais, c'est spooky, mystérieux. Ne sois pas mystérieux. Mets ça à l'écran, on va voir. Est-ce que vous savez comment épeler? Est-ce que c'est un étudiant de science? La science? C'est pourquoi? Il faut un étudiant de la science pour contrôler les machines, mais tu dois être un étudiant des lettres pour pouvoir faire certains orthographes. Ne sois pas bizarre. On va dormir ici aujourd'hui. D'accord. Vous avez combien de principes? Seulement 3? Ok, numéro 4. Après que tu sois né de nouveau, tu dois porter du fruit afin de ne pas perdre ta place en Christ. Ou bien afin de ne pas perdre ton salut. Qui veut perdre son salut pour aller en enfer? Que Dieu nous épargne cela. Jean 15, verset 1. Je suis le vrai cep. Mon père est le cultivateur. Ok. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il ôte. Il ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Maintenant, il faut noter, si tu ne portes pas de fruits, tu es une branche. Ceux qui sont des cultivateurs peuvent être d'accord avec moi. Quand cette partie ne porte pas de fruits, on le coupe. On la coupe. J'ai deux arbres chez moi à la maison. Je suis sur le point de les ôter parce qu'ils ne portent pas de fruits. La vérité, c'est que je n'ai pas pensé trop à ces arbres, mais une fois que tu ne portes pas de fruits, tu es en danger. Quand la Bible dit, Dieu va ôter, Dieu va te faire ôter, Dieu va te ôter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être ôté de Christ. Vous voyez? Parce que tu as été amené à Christ. Tu étais sauvé pour sauver les autres. Donc, comme tu n'aides pas à sauver les autres, qu'est-ce qu'on fait? On te pousse dans l'eau encore. Que Dieu nous épargne. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ôté? Ça veut dire de mourir aussi. Pourquoi est-ce que tu dois mourir? Parce que ta présence est obstacle pour les autres à venir à Jésus. Oui. Si tu meurs, et tu peux essayer de voir, si tu meurs, il faut revenir. Après un an, tu seras étonné. Qui sera ton remplaçant? Oui. Oui, vous serez étonné. Et voyez, notre église, on transfère des pasteurs. Souvent, quand un pasteur est transféré, il est étonné qu'il a été transféré. Il est si étonné, il est choqué. Parce qu'il est habitué à son église. Et il ne croit pas qu'un jour sera transféré. Il pense qu'il sera là pour toujours. Quand on lui dit tu es transféré, il dit moi. Même moi aussi j'étais ici, j'étais transféré du Kodesh pour aller à la cantine. Je n'étais pas transféré à une belle place. J'étais transféré à j'ai quitté mes bureaux glorieux. Oui. Et j'étais jeté dans l'environnement en plein air. Et maintenant nous sommes là en train d'essayer de mettre un abri sur nos têtes. on faisait le culte partout. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, ils disent que non, on ne peut pas nous permettre à faire le culte là-bas. Donc, on s'envoie des messages que non, on a changé de place. Vous serez étonné de qui va venir prendre ta place quand tu n'es pas là. Donc, il faut toujours essayer, et quand tu es vivant, de faire ton meilleur dans toi, très bien, entièrement. En fait, le jour que vous mourrez, vous serez étonné. Le même jour, il y aura des gens prêts à prendre ta place. Mais que Dieu nous épargne cela au nom de Jésus-Christ. Un jour, je suis allé aux funérailles. Il y avait une dame. Je croyais qu'elle pleurait parce qu'elle tenait la photo de la personne qui était décédée. Quand je me suis approché d'elle pour écouter ce qu'elle disait, elle regardait la photo, elle disait, qui va prendre ta place? Qui va prendre ta place? Oui? Donc, c'était la présence de Moïse qui empêchait Josué de devenir Josué. Donc, des fois, quand Dieu va susciter quelqu'un doit partir. C'est pourquoi, quand il était sur le point maintenant de commissionner Joseph, il a dit, lève-toi, parce que mon serviteur Moïse est décédé, il est mort. Donc, quand tu joues la folie dans ta position, Dieu est capable. Et tu joues la folie, Jean 15, 2, peut se passer dans ta vie. Il dit, chaque sarment qui ne porte pas, tout sarment à moi qui ne porte pas de fruits, il l'ôte. Si tu dois faire quelque chose dans l'église, tu dis, oh, je suis fatigué, je suis occupé, je ne peux pas faire, blablabla. Qu'est-ce qu'il va faire? Ôter. Tu seras ôté. Donc, une des raisons principales de porter du fruit, c'est afin que tu ne sois pas ôté. Je me souviens quand le prophète Kakra avait fini ses études, il voulait être dans le ministère. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas faire ça maintenant. Il faut aller chercher du travail. Et il m'a dit, il a peur qu'il allait mourir s'il ne entre pas dans le ministère. Oui. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui comprend la réalité de ce que Dieu s'attend de lui. Dieu s'attend de toi quelque chose. Lui-même, il ne s'attendait pas à être sauvé. Il était un mauvais garçon. Le jour qu'il était sauvé, il avait même volé ma voiture et je ne savais pas. Il a fait vite amener la voiture. Maintenant, j'étais en train de conduire cette personne à Christ. Et quand il s'est donné à Christ, Christ aussi s'attendait à avoir quelque chose de lui. Moi, je pense que je suis sauvé, donc je vais chanter pour Jésus. Jésus est la solution. Écoutez, si tu connaissais la solution, si tu connaissais que Jésus est la solution, tu ne dois pas seulement chanter. Si tu avais la solution pour le sida, et puis tu gardes ça à toi-même, et puis tu es en train de chanter, est-ce que tu ne serais pas appelé quelqu'un qui est méchant? Pour moi, l'une de mes motivations de travailler pour Dieu, c'est ce verset. Je ne vais pas être inutile. Oui. Et ce verset me garde. Des fois, je vois les gens en train de laisser quitter leur position. Je dis, hey, tu n'as pas peur. Hein? Je me souviens de l'évêque Saki, quand on était les étudiants au campus, je suis allé lui rendre visite avec un autre membre de notre communauté. Et c'était mon bien-aimé qui est devenu mon épouse. Oui, si tu es là en train de travailler pour Dieu dans l'église, tu dois chercher ton bien-aimé. C'est alors que j'étais en train de visiter les gens, nous sommes arrivés à la porte de l'évêque Saki. Et voici comment j'ai su que c'était la porte de l'évêque Saki. Il avait placé devant la porte. Malheur à moi. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, voici, c'est ça, sa chambre. C'est ça? Vous devez avoir ça dans votre cœur. Que malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Principe numéro 4, c'est quoi? Je veux seulement principe numéro 4. Je n'ai pas dit de me donner tous les principes. Amen. Numéro 5. Après que tu sois né de nouveau, tu dois porter du fruit parce que c'est la raison pour laquelle Dieu te protège. Numéro 5, après que tu sois né de nouveau, tu dois porter du fruit parce que c'est la raison pour laquelle Dieu te protège. Ésaïe 5. J'aimerais que vous soyez habitués au verset d'Ésaïe. Parce que quand vous ne comprenez pas certains, au moins vous allez comprendre les autres. Ésaïe 5. Je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé. Donc, Aïda va faire une chanson pour nous. Je chanterai à mon bien-aimé un cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Verset 2, il la fossoya et en ôta les pierres et la planta de cèpes esquis. Et il bâtit une tour au milieu d'elle. Et il tailla aussi un pressoir. Il s'attendait à ce qu'elle produise des bons raisins et elle produisit des raisins sauvages. Des raisins sauvages, ce sont des raisins amers, des raisins aigres. Tu ne peux même pas goûter. Est-ce que tu es un raisin sauvage à Dieu? Dis à quelqu'un assis derrière là-bas, est-ce que tu es là? Est-ce que tu entends ce que l'homme est en train de dire? Verset 3. Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez. Jugez. Je vous prie. Je veux que vous veniez m'aider à trouver une solution pour ce cas. Vous voyez, sans un juge, sans un arbitre, on ne peut pas finir le match dans 90 minutes. Il dit, je veux que quelqu'un soit mon juge entre moi et puis ma vigne. Il dit, qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages? Et maintenant, je vous apprendrai ce que je ferai à ma vigne. J'ôterai sa haie et elle sera broutée. Vous voyez? Donc, ici, nous voyons que Dieu dit, il va ôter sa protection autour de cette vigne. Quelqu'un qui évangélise, qui fait l'œuvre de Dieu, qui évangélise, qui porte des fruits. Les puissances surnaturelles de Dieu sont disponibles à toi. Il dit, j'ôterai sa haie et elle sera broutée. J'abattrai sa clôture. et elle sera foulée aux pieds. Mais je prie pour vous que cette prophétie ne soit pas votre partage. Dieu est en train de dire que je ne veux pas t'aider. Et maintenant, les épines et les ronces vont pousser pour entourer ma vigne. Pourquoi? Parce que la vigne de l'Éternel est la maison de l'Éternel et vous avez refusé de porter du fruit. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez faire confiance dans la protection de Dieu sur votre vie. Parce que vous portez du fruit. J'étais victime d'un accident sur la route de Tamale. J'ai eu 4 ou 3 expériences. Tu es dans les expériences où tu vois que tu es sur le point de mourir. J'ai été dans l'avion 2 fois. On a presque eu une collision avec un autre avion. J'étais dans un avion qui était frappé par une foudre. Oui. Sur la route de Tamale, j'ai fait un sursaut dans la voiture. Il y a peu de personnes qui expérimentent cet accident, cette sorte d'accident et qui sortent vivants. Je savais que c'était fini. Mais l'Éternel m'avait dit que ma clôture, ma protection autour du toit, c'est ça qui te protège. Dieu vous protégera quand il voit que vous êtes des gens qui portent du fruit pour lui. Je vois la protection de Dieu autour de vous. Principe numéro 5. Quel est le principe numéro 5? Je n'entends rien. C'est pourquoi Dieu vous protège. Principe numéro 6. Après que tu sois né de nouveau, tu dois porter du fruit pour montrer que tu n'es pas aveugle. Pour montrer que tu n'es pas myope. Amen. Et pour montrer que tu n'es pas oublieux. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 8 et 9. Verset 8 et 9. Car si ces choses sont en vous et y abondent, d'accord? Elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui veut être stérile? Qui veut être stérile et oisif? Verset 9. Car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle, ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 9, nous dit, est-ce que vous regardez? Chez lui, en qui ces choses ne se trouvent pas, est aveugle. Si tu ne portes pas de fruits, tu es aveugle. Tu ne vois pas loin. Tu regardes à ton intérieur, ma voiture, ma vie, mes habits, vous ne voyez pas loin. Vous êtes seulement les gens qui pensent seulement sur des choses sur la terre. Vous voyez, moi je travaille pour Dieu, je garde mes sentiments, mon esprit au ciel. Je ne suis pas myope. Je vois loin. Je vois loin. Il faut ajouter 30 ans à nos âges et vous allez voir La plupart d'entre nous ne seront pas ici. Dans 50 ans, j'aurai combien d'âge? J'aurai 100 et quelques ans. Est-ce que vous pouvez m'imaginer, moi, à l'âge de 100 et quelques ans, et vous aussi, vous serez 70 ans et quelques? C'est possible? Récemment, j'ai vu des gens qui avaient l'âge de 100 ans, 80 ans, 90 ans, en train de faire des courses. Vous n'avez jamais vu ça? Je peux vous montrer? Oui. Les gens âgés, 80, 90, 100, 99, ils étaient en train de courir, en train de faire des courses de 100 mètres. Vous devez porter des lunettes spirituelles pour voir loin. Il y a des années, une sœur vient, elle venait d'entrer dans le ministère et elle est venue me dire que, ah, évêque, il semble que tu voyais quelque chose que nous ne voyons pas. Et je lui ai dit, ah oui, je porte des lunettes spirituelles, je vois très loin. Très, très loin. Voici ce que je fais. C'est pourquoi je fais ce que je fais. C'est pourquoi je prêche ce que je prêche. Et je prêche dans la manière dont je prêche. Je n'essaie pas d'avoir quelque chose de vous. J'essaie d'avoir quelque chose de mon Dieu. Ma vision, c'est d'avoir la plus belle maison au ciel. S'il y a quelqu'un ici qui a une plus belle maison que moi au ciel, ça va me faire mal. Aujourd'hui, moi, ma voiture que j'utilise ici, c'est un pick-up. Mais il n'y a pas de problème. Un jour au ciel, j'aimerais avoir des bateaux, des choses au ciel un jour. Au ciel, je n'aimerais pas avoir un second main ou bien un France au revoir. Non, 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 non. J'aimerais avoir des choses neuves. J'aimerais avoir les portables de top classe. Les portables que je vais utiliser pour vous appeler. Et peut-être pour vous, vous serez en train d'utiliser des vieux portables. C'est au ciel que vous allez voir ma vie, ma propre vie. Quand nous arrivons au ciel, vous serez étonné. Aïda a une chanson. La chanson dit, si tu peux me voir maintenant. Si tu peux me voir maintenant. Tous les gens au ciel en train de chanter, hey, amen, si vous pouvez me voir maintenant. Nous marchons sur les routes d'or. Nos amis, nos frères qui sont au ciel sont en train de dire, si seulement vous pouvez nous voir maintenant. Donc vous devez voir loin. Aujourd'hui, les chrétiens, nous n'arrivons pas à voir loin. Même si tu es un homme d'affaires, tu dois voir loin. Écoutez, si tu es un homme d'affaires, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire quelque chose qui est sensible. Moi, quand j'étais à l'école de médecine, je faisais les évangélisations, j'avais toujours mes notes dans ma poche. Quand j'étais à l'école de médecine, je faisais l'évangélisation, je faisais à l'aube, je me tenais derrière les fenêtres des gens pour prêcher l'évangile à l'aube. Je réveillais des étudiants en médecine, des étudiants en infirmerie, je les réveillais pour prêcher l'évangile. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais échoué. Je n'avais jamais échoué dans mes examens parce que j'étudiais. échoué dans mes examens? Jamais. Quand je vois les gens qui ne veulent pas travailler pour Dieu, qui ont des excuses, non. Écoutez, ces excuses-là, ça marche seulement ici sur terre, mais ça ne marche pas au ciel. Quand le gars à qui on a donné un talent, il est venu, il a dit, voici ton talent, je n'ai pas pu utiliser. Il dit, voici ton talent, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait autre chose, je n'ai pas... Regarde ton talent. Jésus l'avait mis nu devant tout le monde. Il a dit, tu es méchant et tu es méchant et tu es paresseux. Vous voyez les gens qui donnent des excuses, qui ne font rien, ils peuvent parler. Écoutez, sur terre ici, si tu veux faire des débats avec quelqu'un qui n'arrive pas à parler vite, tu peux gagner. Tu gagnes tout le temps. Quand tu te maries, tu dois analyser, voir qui parle trop et qui parle vite. C'est la personne qui va toujours gagner les débats. Il a gagné ou elle a gagné parce qu'il parle vite. Mais au ciel, si tu fais... Jésus va te regarder. Tu vas dire, je sais que tu es un homme dur, tu veux moissonner là où tu n'as pas semé. Jésus a dit, Jésus l'avait rendu nu. Il a dit, tu es méchant. Tu es paresseux. Et tu mets le dans les ténèbres de Dieu. Tu penses que tu peux gagner les débats ici avec beaucoup de parler. Stupide. Tu peux venir ici avec des raisons et des technicalités. Tu viens ici, tu utilises des choses comme des excuses. À cause de cela et à cause de ça. Je n'ai pas pu faire ça. On va te gifler maintenant. Personne ne va faire des arguments avec toi. Les gens peuvent augmenter. Ils peuvent faire des débats. Les gens peuvent faire des débats. Qui a regardé cette film-là, La Passion du Christ, ce film-là? Oh, qui a regardé ce film-là? Je voulais savoir qui a regardé, parce que je vais raconter une histoire. Ok. C'est un film qui était fait en aramaïque, mais il y a les sous-titres, n'est-ce pas, en anglais. Donc, la première fois que j'ai regardé ce film, j'étais aux États-Unis. On avait regardé ça dans un cinéma avec certains frères. Est-ce que vous écoutez? Sinon, je ne veux plus continuer l'histoire. Vous voulez savoir l'histoire? Ok, je suis en train de vous parler. Donc, pendant le film, il y a mes frères, il y avait deux amis à côté de moi qui étaient en train de faire un débat. Ils parlaient. Donc, il y avait un blanc assis derrière qui a dit, chut, soyez calme. Vous êtes en train de nous déranger. Mais un de ces gars qui était avec moi, lui, il fait des débats. Il gagne toujours. Vous savez ce qu'il a dit au blanc? Il a dit au blanc, est-ce que tu parles à aramaïque? Est-ce que tu parles à aramaïque? Est-ce que c'est pas les sous-titres que tu lis aussi? Donc, concentre-toi et lis ce qu'elle a. Et arrête de dire que je suis en train de te déranger. Je vous dis la vérité. Il a silencié les gens. Il a rendu en silence tout le monde. Tu ne peux pas aller au ciel avec ce débat. Tu vas dire, quand tu arrives au ciel, tu vas dire, est-ce que tu as été au Ghana une fois? Est-ce que tu parles la langue locale? Tu as été à l'université au Ghana? Tu vas dire, Jésus, dans ton époque, quand tu étais sur la terre, est-ce qu'il y avait des universités? il va te rendre nu, il va te dire quelque chose, hein. Jésus va te... Donc, ceux qui ont l'habitude de gagner les débats sur terre, faites attention. Le ciel n'est pas un endroit d'aller faire des débats. Le ciel est différent, d'accord? Finalement, je vais vous donner un seul verset pour le dernier point. Verset 7. Après que tu sois né de nouveau, tu dois porter du fruit parce que c'est une bénédiction. Après que tu sois né de nouveau, tu dois porter du fruit parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Avec beaucoup de bénédictions. D'être fécond. Amen. Genèse 1, 28. Wow. Qu'est-ce que la Bible dit? Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez. Genèse 1, 27. 27. 28. 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa mâle et femelle. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez. Vous voyez, Lighthouse Chapel, nous avons commencé dans une petite salle de classe. Et Dieu a béni ce petit groupe dans la salle de classe. Et ce petit groupe est devenu une grande. Et vous savez, il y a des années, quand j'habitais avec mon oncle, je sortais dans les nuits et je priais. Je priais pour une seule chose. Je me souviens, une nuit, la pluie descendait et je priais. Je me souviens, même une fois, les polices sont venus me voir, ils ont dit, je marche trop dans le quartier, dans la nuit. Et ma prière était, Seigneur, rends-moi fructueux, je vais être fécond. Et aujourd'hui, ma vie est caractérisée par la fécondité. Partout, même dans les campagnes d'évangélisation dans l'église. On était dans une salle de classe. Quand on était allé à Londres, il y avait beaucoup de membres dans l'église de First Love. Les gens qui n'ont jamais été dans les églises. Et maintenant, l'église de First Love, ils sont en train de monter. Ils sont en train de monter. Bientôt, ils seront 5000. Nous devons faire vite. Sinon, ils vont nous atteindre. Quand ton argent est béni, ça se multiplie. Quand ta famille est bénie, ça se multiplie. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez. Fructifiez. Amen. Un jour, un de nos pasteurs est allé acheter des poussins pour élever. Il les a nourris. Et les poussins n'ont jamais poussé. Les poussins n'ont jamais changé de taille. Les poussins n'étaient pas bénis. Je déclare sur votre vie que vous êtes bénis. Vous êtes bénis avec la bénédiction de fécondité au nom de Jésus-Christ. Restez debout tout le monde. Dis à quelqu'un, je suis béni. Je suis fructueux. Je suis né de nouveau. Je suis devenu plus fructueux. Très, très fructueux. Levez vos mains. Père, merci pour la fécondité. Après le salut. Après le salut, nous ne serons pas stagnants, mais nous serons des gens qui vont porter du fruit. J'aimerais que vous priez cette prière que j'ai faite en Angleterre en 1970, quelque chose. 1980, je crois, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, rends-moi fructueux. Rends-moi fructueux. Au nom de Jésus. Fructueux. Fructueux. Au nom de Jésus. Le baba bandala machandala baba bana. Tout le monde, partout, priez. Ne parle pas à quelqu'un. Priez seulement. Seigneur, maintenant, comme je suis né de nouveau, rends-moi fructueux. Rends-moi fructueux. Partout, ceux qui sont en haut, priez, Seigneur, rends-moi fructueux. Très fructueux. Seigneur, rends-moi fructueux. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, merci. Nous te rendons grâce. Amen. Alors que toutes les têtes sont baissées, tous les yeux sont fermés, tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Tu veux être né de nouveau. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Viens. Élève ta main droite. Tu veux donner ton cœur à Dieu aujourd'hui. Élève ta main droite. J'aimerais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Tu veux être sauvé. Tu veux dire, je veux être né de nouveau. Lève ta main droite. Très haut. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu viennes à moi ici devant. J'aimerais donner ma vie à Dieu. J'aimerais changer. J'aimerais me tourner de Satan. Je veux une vie changée. Jésus. Levez vos mains. Fais cette prière. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Fermez les yeux, dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Je donne mon cœur à Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir sauvé. S'il te plaît, lave mes péchés avec le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur à Dieu. Je donne mon cœur, je donne ma vie, je donne mon tout à Jésus-Christ. Merci Seigneur, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je donne mon cœur, ma vie, mon cœur, mon tout à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Viens dans ma vie. Reste dans mon cœur pour toujours. Merci Jésus de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.
Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Pour les CD, DVD, livres et autres matériels de Dagi Wall Mills, visitez notre site internet au www.dagiwallmills.fr. Dieu vous bénisse richement.